L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
Un rendez-vous de campagne ce matin sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Vous recevez Mila Kulo-Tukumuli qui conduit la liste Un autre monde est possible en province sud.
Oui, Mila Kulo-Tukumuli, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin alors que l'on arrive au terme de cette campagne électorale pour les provinciales de dimanche. Justement, avant d'arriver et de clore cette campagne d'une certaine façon, quel regard vous portez sur la manière dont elle s'est déroulée de façon générale? C'était une bonne campagne pour vous?
Oui, c'est une campagne qui est courte pour... tout le monde, mais intense. Je constate malheureusement que cette campagne, plus on avance vers le scrutin, et plus elle devient sale, campagne de caniveaux de part et d'autre. C'est dommage, parce que je crois que le pays mérite mieux que des invectives et des insultes. Certains ne sont pas à la hauteur du moment. C'est triste. Donc voilà, d'une manière générale, moi, ce que je peux dire. Après, je dois vous avouer que nous, on ne regarde pas trop ce que les autres y font, en vérité. Nous, je crois, dans notre couloir. Et on a fait une très belle campagne sur le plan purement politique. Je pense que c'est difficile de faire mieux. Sur le plan humain, après, c'est quelque chose de faire une campagne. C'est un épuisement physique, c'est vrai, mais aussi un épuisement moral, parce que on a parlé avec beaucoup de gens, on a rencontré énormément de monde et on entend cette souffrance qui est très très forte dans les quartiers. Il y a beaucoup, beaucoup d'attentes, beaucoup de peurs, mais aussi beaucoup d'espoir.
Donc ça c'est pour la campagne et la manière dont elle s'est déroulée. Votre liste s'appelle « Un autre monde est possible ». C'était le slogan de Jean-Luc Mélenchon pour sa dernière campagne présidentielle. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est un choix ?
Non, je pense que quand on regarde un peu ce que les autres listes ont donné comme nom, un espoir pour demain, peut-être que les choses changent. Je ne savais pas d'ailleurs.
C'était sa campagne présidentielle, oui.
D'accord. Non, nous, on espère que notre pays va changer de logiciel, parce que c'est ce que nous, on a mis en lumière dès 2019, en disant que le débat institutionnel sur l'indépendance, c'est l'histoire de notre pays. Parce qu'on a une histoire coloniale avec la France. Ça, c'est le débat depuis 40 ans. Mais et au-delà de tout ça, il ne faut pas oublier quand même qu'au-delà de cette question du oui et du non, il y a des questions quand même fondamentales dans notre pays. Donc le 13 mai est en vérité un révélateur de ce qui ne va pas.
Mais changer de logiciel, ça veut dire quoi pour vous ?
Bah, dire que la priorité, quand on va aux élections, les élus, c'est pas juste discuter de l'avenir institutionnel après les 3 référendums, bah, c'est ceux aussi qui façonnent le quotidien. Quand on regarde sur le plan économique et social, on voit que notre pays est en train de sombrer, beaucoup plus après le 13 mai, parce que tout le maquillage de ces 20 dernières années est tombé. On voit les comptes sociaux sont dans le rouge. En termes de stratégie, de développement économique et du nickel, ça ne va pas aussi. Et je pense que c'est le débat qu'on devra avoir au lendemain des élections, de manière sereine, au-delà de la question sur l'avenir institutionnel.
Est-ce que ça n'a pas été la difficulté de cette campagne, finalement, de défendre à la fois un programme provincial très pragmatique, avec des mesures de relance et de soutien à l'économie, notamment, comme vous l'avez fait, et en même temps, un positionnement sur l'avenir institutionnel? Ce sont deux sujets qui sont, on le sait, à la fois liés et séparés. Est-ce que ça n'a pas rendu la campagne difficile de parler de ces deux sujets?
Mais absolument pas, je crois ça. Enfin, j'ai fait, je ne sais pas, des centaines de réunions depuis un mois et demi. À aucun moment, on m'a posé la question sur l'avenir institutionnel.
Les gens... Donc les gens que vous avez rencontrés, leur préoccupation, c'est la vie quotidienne?
Mais leur préoccupation première, c'est la vie quotidienne. Après, forcément, ils sont intéressés à la question institutionnelle. Et je crois que c'est important. On va ouvrir les discussions probablement au mois d'août, mais on va trouver d'accord avant la fin de l'année. Il faudra attendre 2028, voire 2029.
Après, ça fait 4 ans.
Ça fait 4 ans qu'on cherche, un accord politique sans vraiment y arriver. Mais en attendant, le jour où on trouve un accord, je crois qu'on doit se concentrer sur les réelles problématiques de notre pays, d'éducation, décrochage scolaire, etc. Il y a tellement de sujets qui méritent notre attention, et c'est ce qu'on dit, nous. Donc ça n'a pas été difficile du tout, à aucun moment. Mais je constate malheureusement que pour d'autres, parler du oui et du non, c'est beaucoup plus simple pour faire une campagne. Moi, j'appelle ça de la paresse intellectuelle, parce que c'est plus facile de faire peur aux gens qu'essayer d'expliquer ce qu'on a à offrir.
Vous avez aussi, politique. Tout le monde a un programme quand même. Tout le monde ne parle pas que de l'avenir institutionnel, et beaucoup ont un programme avec des propositions économiques et sociales aussi.
Oui, par exemple, pas. Moi, je regarde, j'entends ce qu'on me raconte, parce que parfois, on parle dans des quartiers où les uns et les autres viennent. Le discours, ce n'est pas le programme des politiques publiques, c'est le programme de Kanaki ou de pas Kanaki. Bon, voilà.
Milakoulo Toukoumouli, vous avez fait une campagne que certains ont trouvé un peu discrète, voire en réserve. Vous avez eu cette impression-là? C'était un choix ou vous avez donné tout ce que vous pouviez dans cette campagne?
Je ne sais pas qui font ce genre de commentaires, mais pour moi, il y a deux façons de faire campagne. Il y a ceux qui font campagne sur les réseaux sociaux. Bon, c'est en soi, c'est une manière. Et puis, il y a ceux qui font une campagne réelle, sur le terrain. Il faut aller à la rencontre de nos concitoyens. Et puis, je crois que au final, les différents meetings de clôture montrent à quel point les gens sont concernés ou pas. Je rappelle que nous, on a clôturé notre campagne à Païta samedi dernier. On a été submergé par l'espèce de soulèvement populaire, ce qui montre en fait que je crois qu'on a convaincu quand même pas mal dans les quartiers pour venir à notre rencontre, ce meeting de clôture.
Submergé, mais la Reine du Sud a résisté quand même, ça va.
Oui.
La submersion était maîtrisée.
Non, mais on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Discrète, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous, on a mené une campagne extrêmement intense. Après, avec les règles de l'ARCOM sur le temps de parole, c'est peut-être de ces discrétions-là dont vous parlez. Mais moi, je ne suis pas maître du temps et maître de l'ARCOM. Ces règles-là, même si elles existent, sont toujours difficiles à comprendre et à être acceptées par tout le monde.
Voilà. Alors Milakoulo Toukoumouli, on va parler du scrutin dimanche, puisque vous le savez, il faut qu'une liste recueille au moins le suffrage de 6374 électeurs pour passer la barre des 5% et participer à la répartition des sièges. Est-ce que vous, avec votre liste, vous avez bon espoir de passer ce seuil? Et selon vous, combien de listes peuvent le franchir?
Écoutez, quand on fait une campagne, on part toujours gagnant. Bien sûr qu'on espère, même au-delà de passer la barre des 5%, c'est de faire le maximum de voix, peut-être 15 000 voix, on verra bien.
C'est un peu l'objectif que vous êtes fixé.
C'est l'objectif qu'on s'est fixé, donc on verra effectivement dimanche ce qui va se passer. Et combien de listes vont passer? C'est difficile à dire. Il y a 127 000 électeurs. La barre, c'est 6300. Il y a 11 listes, comme en 2019. Je rappelle qu'en 2019, il y avait 4 listes qui sont passées.
4 listes qui ont participé à la répartition des sièges, oui.
Oui, il y a toujours les listes traditionnelles. Donc, il y a les listes qui sont représentées et représentatives. Donc, c'était l'Avenir en Confiance à l'époque, Calédonie Ensemble et Flenkes. Et la seule petite liste qui est passée en 2019, c'était celle de l'Éveil océanien. On verra comment les choses vont se produire. Difficile de faire des projections. Je crois que le plus probable, c'est qu'il y ait 3 listes qui dépassent le seuil. Après, on peut avoir des surprises en fonction de campagnes que nos camarades ont menées, hein, que ce soit à droite ou à gauche ou au centre. On peut avoir une surprise après 4 ou 5 listes qui rentrent dans le scrutin.
Ça fait beaucoup.
Mais ça fait beaucoup. Mais le plus probable, c'est 3 listes.
Alors, il y a 7 ans, votre parti avait causé la surprise en envoyant des élus au Congrès. Pendant cette mandature qui a donc duré 7 ans, certains vous ont reproché une ligne politique parfois un peu flottante. Est-ce que vous souhaitez garder ce rôle de parti charnière ou il est finalement assez inconfortable?
Et notre ADN, c'est d'être du bloc central. Donc, c'est notre ADN, on ne change pas notre ADN. Il reste tel quel. Et ce n'est pas une volonté, c'est simplement que la seule voie pour sortir de l'impasse politique, économique et sociale, pour nous, c'est celle-là.
C'est pour ça que vous avez déclaré qu'il voulait absolument battre la droite? Pour vous, c'est un objectif de campagne?
Mais c'est quoi la droite?
Justement, c'est la question que j'allais vous poser.
Sûrement, vous vous dites que la droite, c'est les non-indépendantistes.
C'est la question que je vous pose. Pour vous, c'est quoi la droite? Pourquoi vous voulez battre là absolument la droite?
Non, mais je me suis déjà expliqué sur ce sujet-là. La droite en politique, mon cher Jean-François, c'est une famille politique qui consiste à dire qu'il faut privilégier et protéger celles et ceux qui sont déjà aisés. Moi, je dis simplement que dans notre pays...
Ils vous rétorqueront qu'ils disent simplement qu'il faut favoriser l'entrepreneuriat pour que créer de la richesse.
Non, mais la famille politique de droite, mon cher Jean-François, à l'origine, c'est les représentants de la noblesse. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé.
Ah, on est dans les origines très lointaines, alors.
C'est la même droite dans les années 1800 ou 1900 qui refusait que les gosses puissent aller à l'école.
Enfin, les temps ont un peu changé, quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit la même droite.
Mais ouais, bon. c'est la même racine, mon cher Jean-François. C'est la même racine.
D'accord.
Donc, même si les choses ont évolué, je rappelle juste que c'est que la famille politique de droite. Dans notre pays, selon l'ISEE, il y a 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Ce n'est pas quand même rien. Il y a des gens qui souffrent. Véritablement, dans notre pays, qui ne mangent pas, il y a des gamines qui se prostituent pour pouvoir nourrir leur famille. Ça, c'est une réalité. Alors, je dis simplement que dans notre pays, ça ne peut pas exister au XXIe siècle. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui a une pensée politique de gauche. Il faut privilégier et protéger les plus faibles. Parce que quand on ne le fait pas... on regarde ce qui s'est passé le 13 mai, c'est une révolte politique, c'est vrai, mais je dis aussi que c'est une révolte sociale. Okay, parce que quand on superpose les foyers d'insurrection, ils se superposent exactement dans les quartiers populaires et dans les squats. Et donc, il faut s'en occuper pour éviter que ça se reproduise demain.
Et donc, selon vous, cette révolte sociale, c'est la faute de la droite? C'est ce que vous dites? Puisque c'est la politique qu'elle applique ne correspond pas à un certain nombre de valeurs que vous portez.
Mais la province sud, elle est gérée par des politiques de droite depuis 1989, l'instauration des provinces. C'est pas une boutade. Collectivement, nous avons tous échoué parce que le 13 mai est arrivé. Et ça veut dire que les politiques publiques qu'on a mis en œuvre pendant toutes ces années, même s'il y a eu des dispositifs d'aide sociale qui ont été créés, ne permettent pas de corriger et de répondre à ces difficultés-là de décrochage scolaire, de délinquance et de logements sociaux qui deviennent aujourd'hui des zones de non-droit. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Et je crois que la politique qui a été menée, c'est une politique de droite en province sud, je dis simplement qu'il faut commencer à la bifurquer pour corriger tout ça. Je dis rien de plus, rien de moins.
Une dernière question, Mila Koulotoukoumouli. On ne sait pas évidemment quel sera le visage de l'Assemblée, mais avec ce que vous venez d'exprimer, cette opposition à la politique de droite, est-ce que ça veut dire que vous fermez déjà la porte à toute alliance éventuelle au lendemain du scrutin s'il y a besoin de dégager une majorité?
Non, mais je pense qu'il ne faut pas regarder les choses comme ça. Vos questions, elles sont plutôt intentinées.
Ce sont des questions que beaucoup se posent aussi.
Et je crois que j'ai démontré pendant ce mandat qu'on a toujours essayé d'être constructif. On a essayé de construire avec la droite, avec les indépendantistes. Vous avez tendance à oublier que si Sonia Backès est devenue présidente de la province en 2019, c'est parce qu'on a empêché qu'elle ne le soit pas. Je voudrais le rappeler.
Hein. Vous voulez dire que c'est grâce à vous?
Oui, d'une certaine manière, oui. Je rappelle qu'il y avait 20 sièges et 20 sièges en 2019 et qu'il y avait la possibilité de la renverser. Et s'il n'a pas été renversé, c'est parce que nous, on n'a pas voulu aller contre la démocratie. C'est la première chose que je voudrais dire. Donc, bien sûr, la campagne, c'est toujours une campagne difficile parce qu'on s'oppose sur plein de choses, c'est le béaba de la politique. Mais demain... lundi, il faudra créer des majorités avec les non-indépendantistes, avec les indépendantistes, pour gouverner, que ce soit à la province sud ou que ce soit au Congrès, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est notre responsabilité, parce que c'est notre architecture institutionnelle. Et je crois que nous, on a démontré qu'on n'a jamais eu peur de construire des majorités avec qui que ce soit.
– Oui, mais certains vous l'ont reproché, puisqu'il y a eu plusieurs positionnements politiques au fil du temps.
Je crois que je me suis déjà longuement expliqué sur absolument. Radio, donc je ne vais pas me réexpliquer à chaque fois.
Mila Koulotoukoumouli, tête de liste Un autre monde est possible. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci.